Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. À l'éternelle question de savoir qui nous sommes, d'où l'on vient et où on va, l'inestimable Pierre Dac, auprès duquel je ne saurais trop vous recommander de vous abreuver chaque jour, avait trouvé la réponse ultime. En ce qui me concerne, disait-il, personnellement je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Fin de citation. Réponse spirituelle, certes, pour autant que l'on sache où est ce fameux chez moi, que l'on ait pu identifier ses origines, ce qui semble aller de soi pour la plupart d'entre nous. Charline Roux, par exemple, vient de Picardie, solide région nordiste, réputée pour son penchant parfois excessif pour cette boisson alcoolisée à base de céréales, affectueusement surnommée la binouze, et c'est sans doute de là que vient son caractère pétillant. En ce qui me concerne, c'est dans le sud-est de la France que se trouve le berceau familial, ce qui me fait un point commun avec Charles Trenet, même si je ne peux que me réjouir qu'il n'ait jamais eu l'opportunité d'approcher le mien de berceau. Napoléon, lui, vient de Corse. Mais pour notre invité, la question reste entière, et même si la terre entière a reconnu son impressionnant talent, il souffre toujours de n'avoir pas été tout simplement reconnu par ses parents biologiques. Un merveilleux documentaire vient de voir le jour qui raconte sa longue quête et son immense solitude au milieu du triomphe mondain. Et c'est l'objet de cette émission. Olivier Roustin est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Olivier Roustin.
Bonjour tout le monde, bonjour Antoine.
Bonjour.
Popopop, j'avais juste envie de le dire.
Ben, c'est pas fini, on va le dire plein de fois. On va le dire plein de fois d'ici la fin de l'émission. Et bienvenue dans Popopop, donc à mes côtés, la pétillante Charline, pour les raisons invoquées précédemment. Bonjour Charline Roux.
Je précise, c'est faux, je ne bois pas de bière. Je vous l'ai déjà dit, c'est probablement le seul alcool que je ne bois pas. Bonjour Antoine, bonjour Olivier.
Donc aucune pression aujourd'hui.
Non.
Au menu également de Popopop, Anissa Bonnefond, la réalisatrice de Wonder Boy, le film sur votre histoire. Olivier, elle sera avec nous tout à l'heure. Mais avant ça, Olivier Roustin, ici il existe une question encore plus violente qu'une réplique des reines du shopping.
Je ne vais pas lui mettre une note qui soit supérieure à zéro, étant donné qu'elle ressemble à rien.
Et cette question, c'est... Olivier Roustin, pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses roustéguiennes, oliviérantes et même balménisées. Et parmi mes préférées, il y a celle d'Emilia Clarke qui était habillée en balmain aux Oscars.
For me, pop culture is it's a kind of reflection of the time that we're in.
Pour moi, la pop culture, c'est le reflet de l'ère du temps. Quand les créations des artistes convergent vers une palette, une texture particulière qui reflète ce qui se passe sur le plan culturel, politique et social.
Voilà pour Emilia Clarke. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous, Olivier Roustin ?
Mais dis donc, Emilia Clarke, elle avait beaucoup de choses à dire. Je pense que pop culture, ça rime avec deux mots, populaire et population. C'est une façon de s'ancrer dans le temps, dans un temps présent, ça c'est une réalité. Mais aussi de parler aux gens, en fait. Et c'est extrêmement important, je pense que... Comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pop, c'est de la pop culture, on parle à la population et on est populaire, et c'est important.
Très bien, et nous sommes importants, nous en sommes conscients, n'est-ce pas Charline ?
Parlez pour vous.
Alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Popopop, juste après Perdu, c'est le tout nouveau morceau d'Angèle.
Altitude, toi et moi, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu. J'y prends bien du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir trouver se déchire, on se tue. Ça me manque les jours tendres du début. À s'aimer pour la première fois. Loin de nous, loin de nous, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira.
Perdu, Angèle, cet extrait de la réédition de l'album Brol. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Oh les mains! Oh les mains! Sauf les mecs sapés en Balmain, 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 Sarouel, façon Aladdin. Alors je me permets de citer le philosophe Maître Gims.
Vous êtes la seule personne qui connaissait pas cette chanson en vrai.
Car nous sommes aujourd'hui avec un mec sapé en Balmain. Mais qui est-il? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, bien sûr, c'est un portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Roux qui pétille à fond, là.
Oh là là. Aujourd'hui, un invité qui implique l'usage de superlatifs de type over, sur, ever, uber, plus, j'en passe et des meilleurs. D'abord pour saluer son talent et son extrême précocité, faut-il le rappeler, il est le plus jeune directeur artistique de grande maison de mode jamais nommée à 25 ans. Il tient les rênes de la maison Balmain et la courbe de croissance et de réussite, sans parler de monnaie, de la marque est inversement proportionnelle à la longueur des robes et des jupes qu'il crée. C'est normal, c'est un surdoué avec option rébellion, autodidacte et franc-parler, super populaire, super suivi sur Instagram et ailleurs, donc super scruté et écouté par ses 5 753 000 abonnés, parfois anonymes, parfois de type Rihanna, Cara, Kimka ou Beyoncé. Uber stylé, un minimum, hein, vous me direz, quand on fait ce qu'il fait. Alors j'ai pu constater dans le documentaire qui l'amène aujourd'hui que même sa tenue de sport est plus chic que mon jogging à glander. Un invité que certains pourraient juger over the top et dont je dirais que le seul préfixe qui ne soit pas sur mais sous que l'on peut employer pour le qualifier est under, mais under control. Image et ambition maîtrisée. Et s'il se présente aujourd'hui sous un jour plus vulnérable, et ben c'est quand même un wonder boy, ça tombe bien. C'est le titre du docu dont il est venu nous parler.
Merci Charline.
Merci.
Le magazine Time Out parle de vous comme d'un selfie made man. C'est pas mal trouvé, non?
Ouais, c'est très très beau.
Ça.
Ouais, c'est une bonne façon de me décrire, je pense.
Olivier Rousteing, dans le doc, on vous voit vous ambiancer sur ça. Et il continue, en studio. Bon, j'ai aucune question, hein. Répondez ce que vous voulez. En revanche, je sais que dans vos Guilty Pleasures, on trouve les L5 et Gilbert Montagné.
Ah oui.
Alors, allons-nous en parler dans la séquence qui suit? Le suspense est intolérable. Réponse avec votre pop liste. Olivier Rousteing, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une série et une musique. Olivier, pour le film, vous avez choisi La Métamorphose ou Die Wandervögel en VO de Franz Kafka, paru en 1915. Charline, c'est vrai que c'est un livre idéal à lire quand on a un coup de cafard, n'est-ce pas?
C'est excellent. Merci. Métamorphose et mésaventures de Grégor Samsa, un représentant de commerce qui se réveille un matin transformé en un monstrueux insecte.
Olivier, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un paragraphe, s'il
vous plaît? Bien sûr. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace. Et en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillait désespérément sous ses yeux.
Extrait de La Métamorphose de Franz Kafka, lu par Olivier Rousteing, c'est le livre qu'il a choisi. Est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller le matin et d'avoir le sentiment d'être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre?
Oui, complètement. En fait, je pense que j'ai choisi ce livre parce que c'est un livre que j'avais lu très jeune et qui, en fait, finalement, me parle encore aujourd'hui. Cette peur de l'abandon, cette peur de se sentir un monstre et que vos propres parents, votre propre famille ne vous reconnaissent pas et ont envie de vous écarter de leur vie. Ça peut être une relation d'amour, une relation de famille. C'est La Métamorphose, c'est une histoire qui correspond à beaucoup de gens, je pense.
Vous l'avez lu à quel âge?
Je l'ai lu, je pense, à mes 15 ans.
Et donc depuis, ça vous poursuit. Donc il y a presque 20 ans.
Ouais, ouais.
Okay.
Voilà, c'est pop, pop, pop.
Ouais, c'est pop, 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 absolument. Olivier Rousteing, pour le film, je monte sur la proue de pop, 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 car vous choisissez Titanic de James Cameron, sorti en 97. Alors, Charline, il s'agit là d'un film devenu un classique et intergénérationnel, puisqu'il parle aussi bien aux plus jeunes qu'à leur maman. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a surnommé Titanic, ta mère, n'est-ce pas?
Oui, ou alors en deux phrases, un bateau qui se transforme en planche, une histoire d'amour qui tombe à l'eau.
Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était vraiment.
Très bien. Ouvrez les yeux. chose qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher.
À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi.
Et Olivier est presque aussi surexcité qu'en réécoutant du Indochine.
Ah ouais, non.
Incroyable. Dans Titanic, vous êtes plutôt Rose, Jacques ou Céline Dion?
Mais ça, c'est la bonne question, en fait. Je sais pas encore quoi répondre. Céline Dion, non, mais j'ai toujours... Ça dépend de la période. Je m'assumais pas trop être Rose quand je l'ai vue, donc c'est que j'avais 12 ans. Aujourd'hui, je suis complètement Rose. Si Jacques, il saute, je saute et compagnie, quoi.
Enfin, et vous le laissez couler?
Ouais, quand même, ouais.
Ah oui, mais c'est couler à la fin.
Il y a la place pour une personne mais sur la planche, c'est comme ça.
Oui, s'il n'y a pas de place pour deux personnes sur une planche, vous faites quoi, vous?
Pourriez-vous sacrifier pour Jack?
Franchement?
Non.
Non.
L'eau, elle est trop froide?
À un moment donné, on va se calmer.
Bon, Olivier, est-ce que vous êtes prêt à taper dans vos mains? Oui?
Bah oui.
Car pour la série, vous choisissez... Mmh. Beverly Hills, 90-210, je peux le dire comme ça.
90-210.
Merci Charline. Série diffusée aux États-Unis entre 90 et 2000. Charline, si mes informations sont bonnes, c'est une série qui se passe à Los Angeles. Mais de quoi est-ce que ça parle? Dites-moi, parce que moi, pendant cette décennie, je faisais autre chose.
Brandon, Jason Priestley et Brenda Walsh, Shannen Doherty, viennent de quitter leur Minnesota natal pour emménager dans un luxueux quartier résidentiel de Beverly Hills. Et puis, il y a Dylan, trois petits points.
Vous êtes plutôt dans le team Brandon ou dans le team Brenda, Olivier Rousteing?
Ah non, là je pense que je suis plus dans le team Brandon.
Dylan,
non, parce que Brandon c'est celui qui a le plus tenu, je crois, dans la série. Donc en fait, non, c'est mieux. En fait, il était un peu chiant, mais il était quand même bien. En fait.
Mm-hmm. Et puis, si vous êtes plutôt du côté Brandon, vous laissez Brenda couler donc.
Ah oui, complètement.
Mm-hmm. Mais je crois qu'elle a coulé en cours de route, hein, Brandon.
Ah ben oui, c'est ça le problème.
Il n'y avait pas la place sur la planche.
Ben non. Mm-hmm. Non, mais si vous y réfléchissez, j'ai aussi choisi ça parce que. Quand j'y réfléchissais, quand je regardais en fait Beverly Hills quand j'étais un gamin, j'aurais jamais pensé que je pouvais vivre à LA, habiller les filles de Beverly Hills, même moi vivre là-bas. Donc c'est un peu un rêve américain qui m'est arrivé.
C'est pour ça que je remarque que c'est des choix qui sont liés à l'adolescence.
Mm-hmm. Hein? Toujours.
Oui, toujours.
Mm-hmm. En même temps, la pop culture, elle commence à l'adolescence. Mm-hmm. Et donc c'était à ce moment-là où j'ai rêvé de pop.
Absolument. Olivier, on va terminer cette pop liste avec votre chanson culte et c'est une chanson, comment dire, un classique, mais disons, enfin, c'est-à-dire que, enfin, bon, eh ben, on écoute. Les démons de minuit du groupe toulousain Image, sorti en 86. C'est une première sur France Inter, je pense. Oui. Alors rassurez-moi, vous ne faites pas partie de ces gens qui hurlent qui ça en entendant ils m'entraînent au bout de la nuit.
Ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé.
En fait, si vous le remettez, je vous le fais.
Allez, on le remet. Juste un fantôme.
Qui ça
Les démons de la nuit, en fait.
Qui ça
Jusqu'où? Oui, bon, d'accord, enfin, ça peut durer toute la nuit. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes plutôt Image que L5 et Gilbert Montagnier?
Ah, ça dépend du stade de la soirée. Enfin, Émile et Image, ça vous rappelle le mariage de tonton, la bonne raclette dans les Pyrénées en hiver. Enfin, c'est le truc que vous écoutez. L5, c'est plus le moment où vous êtes tout seul dans votre champ et vous prenez votre brosse comme un micro, quoi.
Mais globalement, vous avez des goûts assez années 80, parce qu'on vous voit pas mal dans le documentaire. Écoutez Kim Wilde, écoutez Indochine, écoutez Kate Bush, écoutez A.A.
Ah ouais, j'adore. C'est un peu, je pense que c'était les cassettes que mes parents écoutaient dans la voiture quand on partait en vacances, en fait. Ce qui me rappelle toujours ces moments-là où toute la vie est tout simplement plus simple, en fait.
Image, les démons de minuit, ça pourrait se retrouver dans un défilé Balmain?
Ah oui, complètement. Bah, c'est pop.
C'est dur pour marcher, non?
Bah, pas du tout.
Non,
il y a du rythme, c'est bien. Il faut juste avoir des talons, pas trop.
Ouais.
Bien, alors je résume. Kafka, Titanic, Beverly Hills et les démons de minuit. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Très bien, ouvrez les yeux.
Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles, grouillaient désespérément sous ses yeux.
J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher.
À présent, prenez-moi, que tu vas survivre. Que tu n'abandonneras jamais.
Ça a l'air de vous mettre en joie.
Ah mais c'est génial. Hein, j'ai jamais entendu ça, mais ça c'est dément.
Bon, on l'avait jamais entendu non plus. C'est vous ce smoothie de pop culture, ça vous ressemble?
Pardon?
C'est vous ce smoothie de pop culture?
Ah oui, complètement. Ouais. Et puis ça démontre bien toutes les émotions de la journée, c'est-à-dire que je peux commencer par un Kafka, histoire de me dire je vais commencer ma journée un peu plus intello, et puis après j'arrête, je mets du Émile Image, quoi. Voilà.
Bah, voilà, une journée dans la vie de Olivier Rousteing, résumée en quelques secondes. Olivier, avant d'accueillir la réalisatrice de Wonder Boy dans la suite de Pop Pop Pop, on écoute un extrait de la BO du doc. C'est Unforgettable, mais je serais tenté de dire que ça se discute. Un morceau signé du rappeur French Montana et Swirly. Et Charline Roux. Balmain, film, Instagram et parents sont les premiers résultats qui tombent quand on tape votre nom sur Google, Olivier Rousteing. Mais aujourd'hui, nous allons parler de tout cela. Et avant de parler de filtre, Instagram, parlons de film. Et ça tombe bien car vient de nous rejoindre Anissa Bonnefond, la réalisatrice de Wonder Boy. Olivier Rousteing, né sous X. Bonjour Anissa Bonnefond.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans notre studio. Wonder Boy, c'est l'histoire de votre histoire. Olivier, bande annonce.
Ah, j'ai fait un rêve la nuit dernière.
J'ai rêvé que je voyais ma mère biologique et mon père biologique dans mon sommeil. Avant Olivier Rousteing, il y avait un autre Olivier. Quel nom? Quel prénom? Trois petits points.
En fait, quand tes parents ne te veulent pas, finalement, tu te dis pourquoi t'es là?
Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X, c'est en salle actuellement. Alors Olivier, je ne veux pas divulgâcher la fin du doc, hein, comme on dit maintenant, car vous en donnez la définition à la toute dernière minute. Mais est-ce que vous pensez être un Wonder Boy?
Je pense que je suis un Wonder Boy, en fait. C'est une façon de ne pas avoir un destin qui est facile et de le maîtriser et quel que soit d'où on vient, en fait, de créer sa propre route. Je pense que c'est ça, Wonder Boy.
Anissa, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Oui, moi, complètement. Je pense que Olivier, il avait pas du tout, quand il est né, c'était pas évident, cette vie qu'il a réussi à se créer. Donc, pour moi, c'est typiquement la définition du Wonder Boy.
Et pour le coup, dans ce documentaire, est-ce qu'on voit vraiment un Olivier Rousteing sans filtre ou est-ce qu'il y a au moins un petit Clarendon ou un Juno ou un Sierra, un peu, histoire de patiner tout ça?
Non, sans filtre. Non. Ouais, zéro filtre.
Je pense que c'était ça qui était le plus dur. Vous voyez un documentaire d'une heure 45, mais c'était 2 ans et demi de tournage. Donc, il y a eu les 3 premiers mois, je dois dire, où il y avait beaucoup de filtres, où ça n'a pas été évident parce qu'il fallait que je connaisse bien Anissa et toute l'équipe pour pouvoir me livrer. Et en fait, finalement, tous les 3 ou 4 premiers mois ont été complètement édités, n'existent pas dans le film. Mmh, et l'1h45, vous voyez, c'est après qu'elle m'a un peu apprivoisé, je crois.
Dans Wonder Boy, Olivier, vous partez à la recherche de vos origines, une recherche qui ressemble par moments aux 12 travaux d'Hercule, hein, avec le fameux formulaire A38. Olivier, on vous entend dire dans le doc, « Tant que je ne sais pas qui je suis, je ne pourrai pas m'aimer ». Vous donnez l'impression de tout, sauf de ne pas vous aimer. C'est donc un masque que vous portez pour faire illusion?
Ah, je pense que c'est totalement un masque et c'était grâce au docu que j'ai réussi à le faire tomber. Vous savez, beaucoup de selfies, beaucoup de mise en avant, ça cache aussi souvent beaucoup de manque de confiance en soi. Hein. Enfin, faut pas croire que parce qu'on fait des selfies et qu'on met 55 filtres, on s'aime plus que d'autres. Il y a un manque de confiance qui était réel et aujourd'hui, avec le docu, je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même et j'ai fait tomber le masque, oui.
Mais vous donnez aussi l'impression que si vous n'aviez pas atteint ce degré d'accomplissement personnel, professionnel, vous ne seriez peut-être pas lancé dans cette quête. C'est le cas ou vous seriez lancé quoi qu'il se passe?
Je suis pas sûr que je me serais lancé si j'avais pas obtenu le succès que j'ai eu. Parce que plus le succès a été augmenté, plus je me suis senti seul dans ma vie personnelle. Ma vie professionnelle a pris une place énorme et je me suis rendu compte à un moment donné que je pensais plus à moi-même en fait. Et dès que je me regardais dans un miroir ou que je pensais à moi, ben en fait je me sentais encore plus seul. Pour des raisons où j'avais encore des questions qui n'avaient pas été, où j'avais pas de réponse. Donc j'ai eu besoin de partir dans cette quête-là.
L'un des mérites du doc, hein, c'est aussi de tordre le cou au stéréotype du créateur de mode superficiel. Même si vous jouez beaucoup avec les réseaux sociaux, votre compte Instagram notamment, vous éprouviez le besoin, tous les deux, c'est une question que je vous pose à tous les deux, de casser ce cliché.
Moi, personnellement, c'était très important, oui, pour moi, au départ. C'était même un peu un deal qu'on s'était passé avec Olivier. L'idée, c'était de créer, oui, un portrait d'Olivier extrêmement organique et au plus proche de lui. Donc, de casser tous les codes et toute l'imagerie qu'on a du personnage qui est Olivier Rousteing de Balmain. Donc, oui, c'était très important.
Olivier?
En plus, ça se fait de manière complètement naturelle parce que quand elle m'a suivi quand même 24 heures sur 24 pendant 2 ans et demi, donc les codes ils se cassent tout seuls. Vous me voyez pleurer, vous me voyez rire, vous voyez mes parents, l'humilité de ma famille, c'était vraiment l'idée d'être loin des paillettes, mais pas parce que c'était surjoué, juste parce que c'était ma vraie vie et que c'était quelque chose que je montrais pas, que je montrais pas avant.
On a eu envie de partir ailleurs, on voulait raconter une autre histoire, on voulait raconter l'histoire de l'Olivier que les gens justement ne connaissent pas. Et c'est ça qui nous a animés tous les deux pendant ce projet et ce tournage.
Mais alors justement, quelle vous semble être la plus grosse méprise liée à l'image publique d'Olivier?
Je pense qu'on s'arrête vraiment justement à cette première image, à l'Instagram, à la vie de paillette, ses amis superstars. Et que c'est un petit peu facile, en fait, de croire à ça. C'est un peu aussi le mal de notre époque, non? De toute cette génération qui croit qu'on arrive... Enfin, que la vie des gens, c'est ce qu'on met sur nos réseaux sociaux, et c'est quand même extrêmement faux. Donc j'ai aimé, justement, pouvoir aller à l'encontre de ça, et qu'Olivier ait vraiment envie d'y aller aussi, parce que c'était pas facile, il fallait être courageux, quand même. Parce qu'il avait créé une image depuis plusieurs années. Il fallait avoir du courage pour se montrer vraiment.
Ça a surpris votre entourage?
Oui, non, mon entourage, pas du tout. Au contraire, les premières choses qu'ils m'ont dites, c'est on est content que finalement les gens te voient comme tu es réellement. Vous savez, j'ai l'image superficielle de quelqu'un, il l'a créé. Donc j'en veux à personne de penser que je suis superficielle ou que ou je vis dans un monde de paillettes. C'est une décision qui était la mienne de vouloir écarter les gens de tout type de reproches ou autre. J'avais peur de me faire aimer pour qui je suis ou me faire détester pour qui je suis. Donc c'est plus facile de mettre un masque et comme ça, les gens aiment pas ce que vous voulez montrer de vous et ça allait. Mais le vrai intérêt aussi de ce film, je pense qu'au-delà de la quête de ma mère qui est importante, c'est ce que dit Anissa. On vit dans une génération où tout le monde crée sa propre vie sur Instagram. Et donc en fait, on a une seconde vie et on prétend avoir cette vie-là. Et je pense que ce film, ça montre juste que oui, il y a des filtres sur Instagram. Oui, il y a une vie de paillettes. Oui, il y a une vie de rêve. Oui, il est pote avec Kim, Rihanna, Beyoncé. Mais c'est pas seulement ça. Vous pouvez croire que vous pouvez vous limiter à ça, mais il y a une vie à côté. Mm-hmm. Et je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser. C'est moi qui ai 5,7 millions de followers. Je leur inciterai à aller voir ce film pour qu'ils comprennent que faut pas s'arrêter juste à un compte Instagram. Mm. Et que parfois c'est bien, mais ça peut être aussi nocif.
Et c'est tout ce que je vous souhaite, 5,7 millions d'entrées, ça serait pas mal, hein, pour un doc.
Je nous le souhaite à fond aussi.
On est tous d'accord. Bon. Accepter la caméra dans cette quête des origines, c'est un pacte que vous êtes fait avec vous-même, Olivier, pour pouvoir aller au bout, pour vous, mais aussi pour tous les enfants nés sous X, pour montrer que même si on ne sait pas d'où on vient, on peut savoir où on veut aller. Sans caméra, et donc sans Anissa Bonnefond, vous n'auriez pas eu le courage de réessayer, puisque vous l'aviez déjà fait, de comprendre d'où vous venez. La caméra a eu un rôle capital.
Ouais. La caméra a eu un rôle capital parce que je me suis senti accompagné. Alors évidemment, vous allez me dire accompagné avec une caméra. Vous pouvez être accompagné par un ami ou une amie. Mais en même temps, je me suis dit, à chaque fois que je regardais cette caméra, je me disais, il y a des millions de gens qui vont me voir et à qui ça pourra servir. Je voulais pas rebrousser chemin. Et je voulais pas rebrousser chemin pour moi et aussi pour Anissa. Parce que je tiens à le rappeler, Anissa, elle a pris le pari de faire un documentaire d'une personne dont on ne connaissait pas la suite de l'histoire. On peut faire des documentaires sur un designer quand il a 80 ans et on retrace son histoire et on sait plus ou moins son histoire, elle est scriptée. Mm-hmm. Moi, je tiens vraiment à rappeler que c'est une jeune fille qui a 35 ans et qui a décidé de partir avec moi dans la quête de mes recherches. On ne savait pas si on l'avait reçu, mm-hmm. si on allait trouver quelque chose. Donc cette caméra, je voulais pas la décevoir. Je me suis dit, elle a mis son argent, son sac, son envie, son espoir. Et moi, j'ai mon espoir et je voulais pas du tout rebrousser chemin.
Au fil des découvertes, il n'y a jamais eu des moments de découragement ou la tentation de dire oh, j'arrête. Le tournage, la quête, c'est trop lourd.
Il y en a eu plein. Il y a eu plein de moments et on a eu énormément de discussions avec Anissa. À un moment, je disais, ça va trop loin, j'ai trop peur. Et après, c'est moi qui l'ai rappelé en disant non, on y va. Il y a eu beaucoup de moments où, hors caméra, où je dis c'est dur. C'est très, très, très dur.
Il y a eu plein de questionnements aussi, où on voyait que l'histoire prenait un nouveau tournant et on se disait, ok, alors est-ce qu'on continue après le film? Il faut savoir que c'était la vie d'Olivier, donc c'est une grande responsabilité aussi. C'est qu'à partir du moment où on avait des réponses, Olivier, il allait continuer après le film à vivre avec tout ça. Donc c'est aussi comment se placer, est-ce qu'on continue, est-ce que ça va pas trop loin? Qu'est-ce que lui, il est capable d'accepter, de vivre, de supporter, voilà, c'était... Oui, il y a eu beaucoup de conversations, c'était un sacré chemin, c'était vraiment très intéressant tout ça.
Anissa, la difficulté de ce genre d'exercice, que vous négociez d'ailleurs très brillamment, c'est la frontière entre l'observation et le voyeurisme. Comment faites-vous pour toujours rester sur le fil avec un sujet aussi intime?
Ben, je pense que ça fait partie, justement, ce que je vous disais juste avant, c'est ça. C'est vraiment toutes ces conversations avec Olivier et le fait de créer réellement l'histoire ensemble. C'est-à-dire que évidemment, moi, j'avais des envies en tant que réalisatrice, en me disant, bah voilà, pour le film, ça serait très fort. Maintenant, c'est ta vie, donc on peut évidemment pas jouer avec. Donc, faisons les choix ensemble de manière consciente et tout. Je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle, parce qu'on était dans ce partage réel tous les deux et qu'on a avancé ensemble. Il était très clair quand on a compris que possiblement on pourrait continuer la quête et éventuellement retrouver la maman d'Olivier, que ça serait notre limite. Que là, justement, on allait tomber dans du voyeurisme et que c'était une autre histoire, qu'on n'était plus dans la quête d'Olivier, qui était ce que je voulais raconter, mais que ça devenait une histoire à eux deux. Enfin, il y avait un nouveau personnage qui rentrait et c'était pas ce qu'on voulait.
Et puisque vous parlez de personnages, votre entourage, vos parents et grands-parents, dont le degré de mignonnerie dépasse l'entendement, faut le dire, est-ce que cet entourage a été aussi facile à convaincre?
Oui.
Pour le tournage, c'est pas si évident que ça, en fait.
Ils sont pas rendus compte des caméras. Quand ils voyaient les caméras, pour eux, c'était juste des invités, des amis à moi qui arrivaient dans la maison. Donc, ils ont été très touchants et vraiment très aimants. Donc, il n'y a eu aucun problème. Ça a été dur pour eux que j'aille dans cette quête-là. Parce que des parents adoptifs, c'est toujours difficile pour eux de savoir des parents biologiques dessous, tout ça, mais ils ont été vraiment d'un grand support.
Attention Anissa, petit moment psy. La difficulté était double hein, de surcroît, parce que Olivier part à la recherche de ses parents biologiques et vous-même, votre père vous a abandonné à l'âge de 3 ans. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme.
Vous savez, quand j'ai commencé ce projet, j'y avais même pas réfléchi. Je me suis pas dit que c'était du tout pour ça. Enfin, ça faisait pas partie du tout de la décision et en tout cas pas consciemment. Maintenant, depuis que le film est sorti, que les gens l'ont vu, qu'on fait de la promotion, j'ai réalisé en effet que j'en avais besoin. Et j'en ai eu besoin pour même libérer ma parole, moi, dans ma famille. Et ce sujet qui, quelque part, étonnamment, moi, de mon côté, a été un peu tabou. On a souvent menti sur mon histoire. Ça permettait enfin juste que ma vie, ma réalité soit acceptée, soit juste là. Donc voilà, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Je me souviens quand j'en ai parlé à Olivier en disant « C'est quand même incroyable. Attends, en fait, je réalise que c'est peut-être pas si anodin. »
Vous bénéficiez pour le documentaire d'un casting qui va donc de Madame Lamotte, la conseillère de la DAS, à Orlando Bloom. Est-ce que vous attendiez un casting aussi disparate et inédit? Et pareil, comment est-ce qu'eux, ils ont réagi, sachant qu'ils allaient apparaître dans un documentaire aussi intime?
Très facilement. Vous avez J-Lo, vous avez Orlando Bloom, vous avez Kim, vous avez mamie, papy, tonton, papy.
C'est drôle.
Non, c'est génial.
Mais c'est des gens qui m'aiment, en fait. Donc finalement, c'est pas difficile. Ils savaient que le but de ce documentaire, c'était quelque chose de pas du tout promotionnel. C'était une véritable, une histoire d'amour, une histoire de recherche. Donc il y a eu aucun souci, en fait.
Ouais, je pense que les gens ont ressenti la bienveillance qu'il y avait derrière le projet. Donc ça a été assez facile de faire fédérer autour de nous, d'avoir les gens qui nous suivaient et tout. Ce qui a été plus compliqué, c'était de rentrer dans les bureaux de la DAS, du CNAOP. Enfin, tout ça, voilà, ça c'était plus compliqué. Mais que ce soit les énormes stars qui gravitent autour d'Olivier ou la famille, c'est vrai que ça a été assez joli, comme tout le monde nous a suivis.
Vous avez songé à un starring Orlando Bloom and Papi and Mamie.
J'aurais dû le rencontrer avant, ça aurait été génial.
Dans Wonder Boy, donc, ce documentaire, Olivier Rousteing, on découvre Mohamed, votre chauffeur slash conseiller, slash punliner, slash...
Mohamed, j'ai fait un truc hier soir. Je me suis enregistré sur une application de rencontre.
C'est quoi
Mythique? Non mais Mythique, t'as vu ma tête?
Slash psy, donc.
slash beaucoup de choses, slash il sait trop de choses et voilà. Et s'il y avait une planche, j'étais Jack et il serait encore dans l'eau, je vous le dis.
C'est lui qu'il faut soudoyer. Donc,
si vous savez le maximum de moi, ouais. Ouais, c'est Mohamed.
Dans le documentaire, vous êtes rarement seul et pourtant vous semblez très isolé. Vous le dites, il est beaucoup question de solitude dans Wonder Boy. Vous le saviez avant le tournage que ça allait aussi traiter de cette question ou c'est venu au fur et à mesure du tournage cette thématique pour le coup.
Cette thématique, elle est existante depuis que je suis né, en fait. Je suis quelqu'un d'assez solitaire depuis petit jusqu'à aujourd'hui. Après, c'est vrai que ça s'est amplifié avec le succès. Je pense qu'Anissa s'en est rendu compte, elle, en tournant, parce qu'évidemment, quand elle me disait « qu'est-ce qu'on fait après le boulot ?» Je dis « je rentre chez moi et je mange ». Elle avait la partie excitante de ma vie qui était le glamour et les paillettes, comme vous le savez. Puis en fait, à la maison, c'était pas forcé. Hein. Je suis comme ça tous les jours, donc tous les soirs quand je rentre. Donc c'est à la fin où, quand elle a fait le montage, je dois dire, j'ai compris la dualité entre le bruit de ma vie effrénée et le silence qui est la réalité de ma vie aussi.
Bien, Olivier Rousteing, Anissa Bonnefond, observons une petite pause si vous voulez bien dans cette conversation, car c'est le moment des Pop News. Lequel de vous deux sait faire ça?
Vas-y.
Anissa, peut-être?
Non, alors pas du tout.
Pas mal.
On est très mauvais. Oui. On est très très mauvais.
Ah, pas mal, ça vient. Mais oui, ça vient doucement. Bon, bravo, poche, Olivier. Bon, comme je vous le disais, c'est pour lancer les Pop News.
Et si le Messie était de retour? C'est le postulat de la série Messia, dans laquelle Eva Geller, agent de la CIA joué par Michelle Monaghan, découvre des informations sur un homme qui attire l'attention internationale suite à des actes troublant l'ordre public. Alors que de nouveaux adeptes témoignent de ces miracles et continuent de rejoindre ses rangs, les médias du monde entier commencent à se laisser séduire par cette figure charismatique. Est-il vraiment un être divin ou simplement un escroc capable d'ébranler l'ordre mondial?
What are you doing in Syria?
Delivering a message.
A message from whom?
My father.
And who is your father?
He's lost it.
What do you mean?
He just disappears.
No one just disappears.
We all witnessed a miracle.
He saved my daughter's life.
You need to see this.
Bury it for as long as you can.
Et Messia, ce sera le 1er janvier sur Netflix.
Une chouette collection à vous signaler, c'est A Day in the Life, édité par Castor Astral. Chaque titre évoque un moment clé de la grande histoire du rock. Au-delà de la narration circonstanciée des faits, il retrace ses conséquences, parfois inattendues, et son influence sur la musique. On y trouve par exemple On a tué John Lennon, Blur contre Oasis, Sandinista, 12 décembre 1980, The Clash fait sa révolution, et parmi les plus récents, Starman, 6 juillet 1972, La fabrique de David Bowie, ou encore Le dernier été de Grace Slick, 17 juin 1978, la vraie fin du mouvement hippie. Tout ça, c'est dans la collection A Day in the Life et c'est édité au Castor Astral.
Et une nouvelle livraison chitifloute pour vos oreilles émerveillées. Cette chaîne YouTube qui revisite des classiques à la flûte et au kazoo. Et je vous laisse donc découvrir cette merveille. Still D.A.I., bon, quelque peu modifié. Une bonne musique pour vos prochains défilés Balmain, Olivier, ouais. Je pense.
France Inter. Pop-pop-pop, Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Snoop Dogg ?
Mais oui, bien ! Charline, vous me stupéfiez tous les jours.
Préfumette,
hein. Oui, préfumette toujours. Olivier Rousteing, Anissa Bonnefond, vous restez avec nous dans la suite de Pop-pop-pop. Mais avant de continuer à parler de pop, écoutons Crazy in Love, mais version Coachella, un concert explosif avec une Beyoncé habillée par un certain Olivier Rousteing. You ready ? Let's go get on.
So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how you look at doing no one else can. So quietly,
who we think he is?
Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart, just when I was true. I still don't understand just how you like a duo, no one else can.
Crazy in Love, version Coachella, c'était Queen Bee. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Eh oui, car nous sommes toujours en compagnie du directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, et de la réalisatrice Anissa Bonnefond. D'ailleurs, Olivier, ça vous a fait quel effet quand vous avez vu la Queen Bee sur scène comme ça, avec portant vos habits?
Alors, je vais vous dire un truc, ce qui m'a fait le plus grand effet, c'est que je suis resté 3 semaines avec elle avant qu'elle monte sur scène. Elle était assise comme vous l'êtes à côté de moi, en train de chanter cette chanson que vous écoutez, et avoir son double qui était en train de danser dans mes vêtements pour dire oui, j'aime bien avec cette lumière, le vêtement ça va être bien. Mais elle était juste à côté de moi en train de chanter cette chanson-là. Quand la première fois où je l'ai entendue, j'avais, je pense, 16 ans à Bordeaux dans ma chambre. Donc avoir Beyoncé à côté qui chante sa chanson, c'est quand même pas mal.
Vous lui avez pas dit ça ?
Je lui ai dit oui.
J'étais super fan quand j'avais 15 ans. C'est le pire truc à dire à une femme quand même.
Ça dépend de l'âge tour-là. Non,
je vous écoutais quand j'avais 15 ans, c'était trop bien.
Bon, également présent dans Wonder Boy, hein, le documentaire dont nous parlons en ce moment, les oreilles les plus célèbres des défilés de mode, Loïc Prigent. Notre Loïc Prigent, car il est également chroniqueur chez nous, et il avait une question géopolitique à vous poser, Olivier.
Quel est le dernier texto que vous avez reçu, et quelle a été votre réponse ?
Ah. Il a dit texto, il a pas dit sexto, donc c'est bon.
J'ai entendu sexto, moi.
Attendez, je peux regarder juste parce que j'ai pas trop de souvenirs.
C'est important, la vérité historique.
Ah, c'est bien parce qu'il a dit texto, il a pas dit WhatsApp. C'est parfait, Loïc. Mets-toi à la page. Ok.
C'est quoi? Non, triche pas.
Ah ouais, non, mais franchement.
Ouais, franchement, oui.
Ok, ben en fait, je vais juste vous dire un truc. C'est Anissa Bonnefond qui vient de Je ne plaisante pas. En fait, il y a une parution dans un magazine qui s'appelle Paris Match. Voilà, vous me coupez si vous avez un problème. Et elle se trouve trop belle, donc elle a dit j'adore la photo.
Mytho.
Voilà, c'est tout. Je suis désolé, c'est ça. Il n'y a pas un truc vachement plus croustillant. Je peux vous donner celui d'après. C'est mon chauffeur Mohamed. Je lui dis, Mohamed, t'es encore en retard. Il me dit, non, je suis déjà devant le bureau. Et je lui dis, ok, merci, tout simplement.
Et le dernier sexto, parce que moi j'avais compris sexto
okay,
aussi.
Ok, le dernier sexto, c'est... Non, je déconne.
On a ouï dire que si vous n'aviez pas été styliste, vous auriez aimé être président de la République. Alors, est-ce que Roustan 2022, vous y pensez en vous rasant? Et surtout, qui pour vous habiller sans risquer de conflit d'intérêts?
Là comme ça tout de suite. Je suis très content de mon président et de ma première dame de France. Donc voilà, donc je.
Vous vous présentez pas donc du coup.
Non, mais on sait pas. Peut-être quand j'aurai 50 ans, 60 ans, peut-être. Je sais pas.
Ça pourrait faire un bon documentaire pour Anissa.
Ouais, parfait. La suite.
Liberté, égalité, Olivier.
Pas mal.
Non, pas mal.
Pas mal. Ah.
Et quelle serait votre première mesure, vous président?
Ah, ça c'est une bonne question. L'autre jour, je pensais à ça dans la voiture.
Donc vous voyez, c'est sérieux. Bah ouais.
Une journée mode.
Obligatoire.
Non, ça fait
une éducation à la mode, vous voulez dire?
Je sais pas. Honnêtement, j'ose pas rentrer là-dedans.
Est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes proche/fan de Brigitte Macron?
Non, je suis vraiment fan d'elle parce que je trouve que c'est une personne qui est extrêmement généreuse, humble, qui montre aussi une autre facette de la France, une première dame de France qui pousse les limites et je trouve ça assez incroyable. Et je suis aussi fan de mon président. Par exemple, là, il y avait quelques semaines, on était à Lyon avec beaucoup de gens pour réunir de l'argent pour trouver des solutions contre la tuberculose, la malaria et le HIV. Et j'étais vraiment, je le connaissais avant, mais j'étais encore plus impressionné par son discours et par sa façon de réunir le monde entier pour des causes aussi importantes et aussi grandes. Donc,
et la France, pour l'instant, a tenu son engagement.
Absolument.
Parce que je suis un peu au courant du dossier.
C'est un très très beau dossier, je vois, vous avez vu. Et j'ai adoré parce qu'à ce moment-là, il a dit c'est bien d'applaudir les gens qui participent, mais c'est aussi bien de montrer du doigt ceux qui ne participent pas, et je veux que les gens participent à cette cause. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau.
Ça veut dire qu'on peut être aussi proche du clan Macron que du clan Kardashian?
De salles de ambiance.
Charline, merci.
Il y a des similitudes, il y a des points communs.
J'avoue, je me suis jamais posé cette question-là, mais.
Quelle question.
Mais ils ont les mêmes blazers.
Mais ouais. C'est deux univers différents, c'est deux univers parallèles, mais deux univers. Je sais pas. Mais des univers extrêmement intéressants.
Il n'y a pas de télé-réalité pour l'instant sur Brigitte Macron. Vous nous l'avez rappelé encore en début d'émission, Olivier, vous insistez sur pop au sens populaire du terme, faire rêver les gens. Vous ne voulez pas parler uniquement au front row, dites-vous. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux dans l'industrie dans laquelle vous officiez? Est-ce que c'est si facile à faire que ça, d'être populaire et de parler à tout le monde?
Ah non, mais c'est pour ça, votre première question, pour moi, elle est extrêmement importante. Quand vous dites qu'est-ce que c'est que la pop culture. Moi, je me suis battu pour intégrer la pop culture dans le monde du luxe. Qui dit pop, dit populaire, dit population, dit pas luxe. C'est souvent ça le problème. Il y a une véritable dualité entre vouloir parler aux gens de dehors et vouloir parler aux gens d'un défilé. Et moi, je me suis toujours battu et je me bats encore, encore aujourd'hui pour dire que le luxe, il peut appartenir à la pop, ou à la population.
Vous avez cassé les codes hein, en arrivant chez Balmain, en étant par exemple plus jeune que certains stagiaires, et en boostant le chiffre d'affaires par 6. Votre secret, c'est donc la pop culture, des collabs pop avec des icônes, hein, comme Rihanna, dont on parlait tout à l'heure, des références au rap, au hip-hop. Comment a été perçu au début, comment ça a été perçu dans ce monde qui est assez conservateur?
Bah, j'ai failli me faire virer. Hein. Non, concrètement, je pense que mon président un jour m'avait appelé, il y a 6 ans, me disant « mais... mais qu'est-ce que tu fais avec une selfie sur Instagram ?» Je lui ai dit « oui, mais t'es bien content quand on vend des vêtements de luxe sur Internet. » Enfin, il y a 20 ans, on n'aurait jamais pensé mettre du luxe sur Internet. Donc, je pense qu'il y a toujours une façon d'appréhender le monde de la pop. Moi, je sais que j'ai toujours voulu pousser ça dans le monde du luxe. Même être aujourd'hui avec vous, vous recevez pas beaucoup de designers. Enfin, c'est une réalité, c'est qu'on est... La pop est importante et moi, je la pousserai tout le temps.
Et vous avez aussi changé le visage des gens qui défilent, il faut bien le dire. C'était important aussi pour vous
de montrer
des mannequins qui ressemblent un peu plus au monde, en tout cas.
Oui, c'est vrai. Mais toujours pas, parce que disait Emilia Calarc, de représenter le monde actuel. Mmh. Et ça, c'était vraiment important pour moi de continuer à le faire.
Alors, j'ai toujours rêvé de poser cette question.
Allez-y. Quelle est la tendance de l'année prochaine?
Non. La femme Balmain aujourd'hui, qui est-elle? Oh, j'ai toujours rêvé de poser cette question.
Charline.
Non, c'est toi. Non, regardez-moi. Il y a zéro chance. Et l'homme?
Oh là là, belle question. La femme Balmain, vous voulez un prénom?
Bah, je sais pas. Dans votre tête, elle ressemble à quoi?
Moi, j'ai toujours été fan de Marilyn Monroe. Donc, en fait, pour moi, ça a toujours été mon inspiration. Une femme fatale, une femme sexy, une femme intelligente, une femme qui peut bouger les choses et une femme plus forte que l'homme. Donc, j'ai toujours été attiré par ce genre de femme. Donc, je dirais que s'il y avait une image, un visage... excusez-moi, je vous détruis votre...
C'est désolé, c'est bon.
Donc, je dirais Marilyn Monroe pour la femme. Et comme homme... ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre à l'homme.
Parce qu'Antoine a mal répété. Hein. L'homme est une femme comme les autres.
Mais évidemment que l'homme est une femme comme les autres. Anissa, vous qui avez, pour les besoins de ce documentaire, rapproché un peu ce milieu de la mode, vu de côté coulisses, quelles impressions en avez-vous retirées?
Mais dans la maison Balmain, moi, j'ai été très surprise parce qu'il y a une ambiance qui est extrêmement jolie, extrêmement chaleureuse, bienveillante, avec justement dans les ateliers des personnes de toute nationalité, de tout âge. Et ça m'a beaucoup plu et touché. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus carré. Enfin voilà. Après,
je t'en prie, c'est carré chez nous.
Non, mais attends.
C'est
tendre en fait. Il y a vraiment une vraie tendresse. En fait, je trouve que ça ressemble vraiment à toi. Ce que tu dégages, même ce que tu fais sur tes podiums, voilà, il y a vraiment ça m'a plu. Ensuite, est-ce que c'est un monde qui m'attire? Moi, j'adore porter les robes d'Olivier, donc je suis trop heureuse que ça existe. Mais par contre, à la fin, j'étais contente de. C'est pas mon monde en tout cas. Voilà.
Bien résumé.
Olivier, pour terminer, You Only Know My Name, Not My Story, c'était une des inscriptions de votre collection automne-hiver 2019. Que pourra-t-on voir dans les prochaines? You Know My Name and Now A Little Bit of My Story with my documentary Wonder Boy, directed by Anissa Bonnefond. Attention, on ne va pas faire une collection de slips, hein, ça tiendra jamais.
Ça dépend du slip. Je suis sûr que vous, Antoine, ça tient bien.
Merci.
Ah mais je suis sympa aujourd'hui.
Ben oui, il est flatté là, vraiment. Et puis en plus c'est très réaliste. Bien, Olivier Roustan, Anissa Bonnefond, on approche de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Allez, j'appelle mon ascenseur. Ah ben oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Toujours l'ascenseur de l'avant. Alors celui du jour... Ah ben oui, mais on est vendredi, bien sûr, c'est le jour du grand n'importe quoi d'Alexandre Véret. Allez, c'est parti.
Alors, professeur, dites-nous comment fonctionne votre effaceur de mémoire.
Do you know what I got? lieutenant Perkins. À ce rythme-là, nous n'arriverons jamais à rattraper l'ennemi. Veuillez accélérer la cadence.
Comme ça, capitaine?
Non, plus vite.
Comme ça, capitaine, ça va?
C'est mieux, lieutenant. Mais allez-y, poussez les moteurs à fond.
Comme ça, capitaine?
Encore, encore et encore.
Merci Alexandre Verret, le grand n'importe quoi, c'est chaque vendredi dans Pop 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 et on passe du grand n'importe quoi au grand Elvis, Return to Sender.
Return to Sender. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such soul. We had a quarrel, a lover's spat. Then I dropped it in the mailbox as any special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
We're riding on it.
Return to sender, address unknown, no such number, no such soul.
Return to Sender, Elvis Presley, c'était en 62 et aujourd'hui dans Pop 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 sur France Inter pour terminer cette émission. Merci Olivier Rousteing.
Merci
Anissa Bonnefond, Wonderboy, Olivier Rousteing, né sous X. C'est actuellement en salle et c'est également à retrouver sur MyCanal en replay. Et c'est plus que chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci à l'équipe de la maison Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus, notre Bullshit Man Officer, Paul Percheron, notre premier d'atelier, Aurélien Esvan, notre cliente libanaise Fortune, Claire, Sophie Collet, Simon Restat, nos stylistes, à la bande son du défilé de Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire, qui fait aussi des cafés comme tous les stagiaires dans le monde de la mode. Lundi, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop, mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, plutôt comme dit Kylie Jenner à la fin de leur tuto économie sur YouTube. Oui, ou alors dit plus discrètement, abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous, à notre podcast, et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.